Stop, c'est parti. Comment ça marche le journalisme?
Sur Twitter, Instagram.
On est dans un moment de grande confusion.
You are fake news.
La bonne réponse.
Il est 9h40 sur France Inter et c'est l'Instant M qui redémarre. Bienvenue à tous.
Quand on regarde une série, on sait que ça va se terminer.
Mais ne spoiler.
Spoil.
On ne se ferme pas les yeux aussi facilement qu'on se bouche les oreilles.
C'est une vieille ancienne des médias de masse. La masse, justement, dans toute son immensité, son hétéroclisme et son anonymat. Comment lui donner un visage? Comment faire qu'elle se reconnaisse dans le miroir que lui tend l'information? Comment faire pour qu'elle y trouve réponse à ses questions? Comment faire parler quelques-uns au nom de tous? Nos démocraties vivent une crise de la représentation. Ça vaut pour la politique, certes. Mais cela vaut-il pour les médias? Interrogeons celui qui a ouvert aux gens les plateaux des chaînes info.
L'Instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Bonjour David Pujadas.
Bonjour Sonia.
Alors, 24 heures Pujadas, vous en êtes le producteur et accessoirement l'animateur. C'est tous les jours sur LCI de 18 à 20 heures. Excellent mois de septembre en audience. Vous êtes leader des chaînes info sur ce créneau.
Pour la première fois. Donc sur un mois entier...
Ça paye, c'est ouais, ça.
C'est une bonne rentrée.
C'est une bonne rentrée. La grande confrontation, ce sera une forme de grande explication, de grand débat. Jean-Paul Delevoye, spécialiste des retraites face aux Français. Ce sera la semaine prochaine, mercredi, en prime time sur LCI. On va en parler dans un instant.
Mercredi prochain.
Mercredi prochain, exactement, dans une semaine pile, en prime time. Avec nous, Cyril Petit, qui vient nous voir de temps en temps, fin connaisseur de la presse quotidienne régionale. Cyril, on dit souvent que les médias ne parlent que des trains qui arrivent en retard. Eh bien, La Montagne, qui est le quotidien auvergnat, qui vend 150 000 exemplaires par jour, s'en est donné à cœur joie des trains. Des dizaines d'articles sur le sujet.
Oui Sonia, bonjour. Je vous cite un édito. Un train qui arrive à l'heure serait même presque accueilli comme une performance. Autre extrait, il y a belle lurette que la SNCF a passé un deal avec la honte. C'est violent.
La honte, ouais, la honte.
C'est violent, c'est très violent comme édito. L'auteur, Sandrine Thomas, la rédactrice en chef de La Montagne, qui a pris la tête de la fronde sur Twitter, en cause la ligne intercité Paris-Clermont-Ferrand. Un jour, 11 heures de retard, un autre 17 heures, des annulations, des trains en mauvais état, ras-le-bol. Face au silence de la SNCF, elle passe à l'action. Un hashtag, La Montagne s'engage, et une choque le 11 juillet. Stop, ça suffit. Objectif, inviter, convoquer même le patron de la SNCF, Guillaume Pépi, et la ministre de l'époque, Elisabeth Borne, à venir s'expliquer face aux usagers.
Et ça a marché.
Oui, ça a marché au final. Alors, le PDG et la ministre ont bien tenté de revenir à une interview plus classique par téléphone. Trop tard, s'est interposée la rédactrice en chef, c'est aux usagers méprisés qu'il faut répondre. Résultat, le nouveau secrétaire d'État au transport Jean-Baptiste Djebbari a fait de Clermont-Ferrand sa première sortie officielle le 6 septembre.
Ouais.
Jusqu'à la veille, la rencontre était même prévue dans le fameux train voiture 11 au départ de Paris-Bercy. Alors pour des raisons de sécurité, elle a finalement eu lieu dans les locaux de La Montagne face à 12 lecteurs, pas d'élus. Aucun institutionnel.
C'est important ça. Pas d'élu, pas d'institutionnel.
Dialogue direct avec les lecteurs, avec les usagers. La Montagne, épaulée par l'association Objectif Capital, avait réuni 2700 témoignages et propositions de citoyens. Et parmi ce qu'a obtenu le journal, le déblocage de 2 milliards d'euros.
C'est pas rien.
C'est pas rien.
2 milliards d'euros. Fait marquant, le journal va intégrer le comité de suivi des engagements qui ont été pris ce jour-là. Et donc sera là pour les rappeler au successeur de Guillaume Pépi, qui va arriver le 1er janvier.
Oui, nous sommes le SAV des usagers de la SNCF, nous confie Sandrine Thomas. Il nous signale les problèmes et nous envoie des infos. Alors le groupe Centre France, qui rayonne dans ce que les géographes appellent la diagonale du vide, veut devenir le porte-parole de ces territoires abandonnés. Il vient de créer une cellule d'enquête et veut incarner le journalisme d'engagement. Mm-hmm. Chaque reporter, désormais, chaque matin et chaque jour, se pose la question « Quel impact aura mon article sur les lecteurs ?»
Et avec ces nouvelles pratiques, La Montagne, finalement, qui n'est pas seul, revient à ses principes fondateurs.
Oui, on a longtemps reproché à la presse locale, à La Montagne, comme aux autres, d'être du côté des institutions.
Ouais.
Elle fait tout pour s'en éloigner et pour se placer du côté des lecteurs. Elle ne rend plus seulement compte, elle agit. Alors un autre édito de Sandrine Thomas, il y a quelques jours, « S'engager avec vous est notre raison d'être. Nous avons tant de combats à mener ensemble. » Alors cette phrase, elle résonne avec celle écrite par Alexandre Varenne, le fondateur du journal, dans le premier éditorial. Nous prétendons travailler au bien public, écrivait-il. C'était le 4 octobre 1919. Mmh. Alors après-demain, la montagne aura 100 ans, hein, justement. Emmanuel Macron viendra assister aux festivités en Auvergne après avoir participé à un débat organisé par un autre groupe de presse. Ce sera demain par la Dépêche à Rodez devant 500 lecteurs.
Voilà. Croyez-vous que le président y aille en train?
C'est pas certain. C'est pas certain, surtout s'il veut être à l'heure.
C'est ça. Bon anniversaire à la montagne centenaire. Donc, hein, on vous réécoute Cyril Petit, notre ami du journal
formidable,
du dimanche.
Formidable.
Sur franceinter.fr. Oui, formidable. Et David Pujadas, il va se passer des choses à Rodez devant 500 lecteurs.
Oui, il va se passer des choses. Oui. Emmanuel Macron va effectivement faire à nouveau un grand débat, comme il l'avait fait avant l'été, sur cette question de la réforme des retraites, qui reste très floue pour beaucoup de gens. Et dans la foulée, c'est pour ça que nous ferons cette grande confrontation avec Jean-Paul Delevoye, qui est chargé de la réforme au gouvernement, et des Français très divers. Chacun
on va en parler dans un instant, mais justement, on peut expliquer pourquoi cette grande confrontation elle a changé de date. Elle était prévue ce soir.
Elle a changé de date parce que la mort de Jacques Chirac a décalé ce grand débat d'Emmanuel Macron à Rodez, et que Jean-Paul Delevoye et le gouvernement ne voulaient pas prendre la parole en détail sur ces sujets face à des Français avant que le président de la République ne l'ait fait lui-même.
Allez, face aux Français, on continue.
L'instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
D'abord, David Pujadas, vous êtes un visage majeur, un visage clé de la chaîne LCI. Petit détour par la polémique qui secoue votre chaîne depuis dimanche. Je rappelle des faits. Lors d'une convention dite de la droite organisée par Marion Maréchal Le Pen, LCI fait le choix de diffuser en direct l'intégralité du discours d'Éric Zemmour, d'une xénophobie extrême. Tollé, kyrielle de plainte de téléspectateurs au CSA, communiqué de la Société des journalistes de LCI qui se désolidarise du choix de la chaîne. Votre directeur, Fabien Namias, reconnaîtra le lendemain que ce fut une erreur. Là, Le Monde titre son édito « La haine télévisée ». Vous en tirez quelle leçon ?
Écoutez, j'en tire la leçon qu'il est rare qu'un média, qu'une chaîne reconnaisse aussi rapidement une erreur. On fait tous des erreurs. Celle-là a été reconnue très vite. Donc, je salue ce geste. Ça n'est pas si fréquent. On fait tous des erreurs. Et là, elle a été reconnue assez rapidement. Et ensuite, la conséquence qu'on doit en tirer, c'est toujours plus de vigilance sur de nos décisions. Voilà.
Un mot peut-être sur cette pratique beaucoup développée, beaucoup usitée par BFM TV pendant la campagne présidentielle, par exemple. Interrompre le cours de l'antenne pour diffuser un discours de candidat in extenso. Est-ce que ça pose problème d'un point de vue éditorial ? Est-ce que c'est rendre les clés éditoriales de son média à des organisateurs de débats et à un tribun ?
Ah, c'est très compliqué, mais si vous êtes une chaîne info, c'est aussi pour vivre des moments d'actualité, pas seulement pour les commenter, mais pour les faire vivre au plus grand nombre. Mmh. Un meeting d'un dirigeant politique, c'est un moment d'actualité. Vous pouvez avoir envie de le vivre en direct. Moi-même, je peux avoir du plaisir à regarder ces meetings en direct. Alors, la question se posait peut-être davantage pour Éric Zemmour, parce que ça n'est pas un dirigeant politique, mais précisément parce que tout le monde imaginait, enfin beaucoup de monde imaginait, qu'il allait avoir, à l'occasion de cette convention, une construction politique, une organisation politique qui allait faire surface. Ben, du coup, c'est un peu ce raisonnement-là qui a été tenu. Finalement, il n'en a rien été. Il a pris un peu tout le monde à contre-pied. Et puis, il a franchi trois crans dans son discours, Éric Zemmour.
Ça, c'est clair. Alors, voilà. Il y a l'erreur d'LCI, et puis il y a la tactique Zemmour. Provoquer plus que le scandale, provoquer l'état de choc, provoquer la sidération. Donc, résultat, diffusé par LCI ou non, ce discours, de toute façon, il allait provoquer un battage médiatique énorme. Alors, que devons-nous faire, nous, journalistes, vous, David Pujadas, moi, Sonia De Villers, face à des propos aussi graves ? Est-ce qu'on doit les reprendre et les commenter abondamment, à la hauteur de leur gravité ? C'est-à-dire, on ne peut pas rester insensible, on ne peut pas faire comme si de rien ne s'était passé. Ou est-ce qu'on doit ne pas en parler pour leur faire de la publicité ? Parce que hier, le visage d'Éric Zemmour était partout. Partout sur Facebook, partout sur Twitter, partout en homepage de tous les sites d'info de France et de Navarre.
C'est une question essentielle, mais qui se tranche au cas par cas. Quand vous avez le sentiment que des propos sont du pur ressort du débat d'idées, à ce moment-là, s'en saisir s'impose, et il faut en discuter, il faut en débattre. À partir du moment où vous pouvez avoir le sentiment que ces propos sont plutôt, en tout cas ont une connotation d'appel à à une forme de ressentiment, voire de violence. Éric Zemmour devra s'en expliquer sans doute hein, sur ses propos. Mais
oui, oui,
l'impression qu'on peut en avoir, en tout cas, c'est celle-là. Alors, je pense que les médias peuvent aussi faire preuve d'une certaine discrétion.
Vous avez choisi de ne pas en parler, vous, lundi.
Mais on a choisi de ne pas en parler. Peut-être qu'on était dans une situation particulière, puisque ses propos
Parce
avaient été diffusés sur l'antenne. Mais même s'ils ne l'avaient pas été, je pense qu'à partir du moment, encore une fois, où il y a un appel à autre chose que les idées, on peut s'en passer. Voilà, on peut s'en passer et il n'y a pas besoin de donner une caisse de résonance, forcément, à ces propos-là.
Alors, voici la raison...
Encore une fois, je parle de quelqu'un que moi, j'ai invité, par exemple, pour un débat qui était d'une grande qualité, je ne vais pas dire le contraire aujourd'hui suite à ses propos, mais on a fait un débat Cohn-Bendit Zemmour sur l'Europe au moment des européennes, qui était un formidable débat. Donc voilà, là je parle bien des propos qui ont été tenus samedi dernier.
Alors, dans une semaine, David Pujada, ce sera le mercredi 9 octobre à 20h45, vous organisez la grande confrontation, une soirée donc de prime time, sur la réforme des retraites. On l'a dit, rappelons que vous avez été l'un des premiers à réagir à la crise des Gilets jaunes en organisant, ça s'appelait à l'époque la grande explication, c'était le 28 novembre, 1 million de personnes vous avez suivi.
Le ras-le-bol d'en baver tous les mois, et quand je dis tous les mois, c'est tous les mois, je n'en peux plus de voir autour de moi la souffrance. Je pensais vraiment être un cas isolé en me disant « Oh la vache, on est le 10 du mois, comment je vais faire pour finir mon mois ?» Et en fait, je me rends compte que je ne suis pas la seule. Nous sommes des centaines de milliers dans mon cas à souffrir, parce que clairement c'est une souffrance quand on ne peut pas acheter une paire de baskets à son fils pour aller au sport.
Témoignage d'Ingrid Levavasseur, je me rends compte d'un seul coup que je ne suis pas toute seule dans mon cas. C'est évidemment extrêmement intéressant. Un mot d'abord pour dire que des Français vous en faisiez venir, par exemple à l'émission politique, que c'est un dispositif que vous avez adopté dans de nombreux rendez-vous que vous avez piloté, mais que c'est un format relativement inexistant sur les chaînes d'infos.
Tout à fait. Mmh. Et puis, quand on faisait venir des Français des paroles et des actes, donc il y a plusieurs années, ils étaient, je dirais pas marginaux, mais ils étaient assez isolés dans un dispositif qui était globalement institutionnel.
Voilà.
Et qu'il est resté d'une manière générale d'ailleurs dans les émissions politiques. Là, c'est vrai qu'on a pris conscience, mais de façon un peu fortuite, hein, on ne va pas se lancer des fleurs, parce qu'au départ on voulait simplement organiser une confrontation entre ces gilets jaunes, et à l'époque on était vraiment au moment des ronds-points, il y avait quelque chose d'assez fraternel qui se faisait, d'assez sympathique, d'assez sincère, il n'y avait pas encore les violences, et le gouvernement. Et on a été effectivement les premiers à pouvoir organiser ce dialogue direct entre les gilets jaunes et le gouvernement. Et on s'est dit, mais à travers tout ce mouvement, qu'on avait envie que ça continue. C'est pas seulement qu'on s'est dit qu'il y avait un besoin et qu'il fallait
Alors
se positionner.
Oui,
on s'est dit qu'il y avait,
comment
on avait envie d'entendre les Français.
Parce que je prends votre communiqué de presse de la semaine prochaine et je vois des Français castés, c'est-à-dire qui ont fait l'objet d'un casting. Ils sont annoncés de la manière suivante: aide-soignante, enseignant, cheminot, avocat, salarié du privé, chef d'entreprise. Et là, on se dit, ça fait des années que la télé choisit des Français en les identifiant par leur profession. On sort d'une crise des Gilets jaunes qui vous met sous le nez, à quel point tout ça a été artificiel, à quel point ça existe depuis des années, à quel point les Français ne s'y reconnaissent pas du tout.
Sauf que c'est une émission sur la réforme des retraites. Donc chaque profession se positionne en fonction de sa condition par rapport à cette réforme. Les enseignants se posent une question bien simple qui est, ok, on harmonise, donc il y aura une augmentation des salaires, il y aura une intégration des primes, mais nous on n'a pas de primes, alors comment ça va se passer? Bref, sur cette réforme des retraites, il y a quand même un cas particulier qui est que les avocats d'un côté, les enseignants de l'autre côté, les aides-soignants ou les infirmiers de l'autre côté se posent des questions sur leur profession. Donc là, si vous voulez, c'était pas illogique, mais c'est une manière de dire que toute la France sera là. Il y aura aussi des retraités, il y aura aussi des salariés du privé, du public, bref. Mais sur la réforme des retraites, bien sûr que la profession compte beaucoup. Donc d'où l'indication qu'on a donnée.
Parce que là, il y a quand même quelque chose qui a sauté avec les gilets jaunes. C'est-à-dire,
oui,
au fond, ils sont plus arrivés par cette même clé d'entrée. Je ne suis pas seulement une infirmière, je suis aussi une maman qui ne peut plus acheter des baskets à ses enfants. Et quand on me faisait venir dans des paroles et des actes ou dans l'émission politique, on me faisait venir parce que j'étais infirmière. Donc il y a quand même l'individu...
Ou parce que j'habitais tel quartier.
Voilà.
Ou parce que je vivais telle réalité. Pas uniquement la profession.
Mais c'est une sorte d'entrée fracassante d'un individu dans toute sa complexité, avec des points communs tout autour de la France que finalement les médias ne traitaient pas, à force de les catégoriser.
Non, que les médias ne traitaient pas pas seulement à force de les catégoriser, mais parce que globalement, on considérait que ça ne contribuait pas à rehausser le débat politique. Mmh. Le débat politique, c'était bien entre les sachants, c'était bien entre ceux qui savent, entre ceux qui pratiquent. Et d'ailleurs, honnêtement, ça reste quand même l'essentiel du débat politique. Évidemment, ceux qui sont au cœur de la machine, mais...
Léa Salamé et Thomas Soto, qui vous ont succédé à l'émission politique, ont eu-t-ils raison d'abandonner justement ce format de l'émission politique? C'est remplacé par Vous avez la parole.
Bah écoutez, je pense qu'ils sont venus un peu effectivement sur ce terrain-là et on peut comprendre ce choix. Nous, on l'a fait dès novembre, mais bien sûr que quelque chose a changé dans la France. Quelque chose a changé, mais quelque chose a changé. C'est pas seulement qu'on se dit tiens, il faut donner un cadre à ça, il faut être dans le coup. C'est qu'on a envie. Moi, j'ai envie d'entendre des Français. J'ai envie d'entendre des Français interpeller Jean-Paul Delevoye sur ce que sera cette réforme.
Alors, le 18-20, ça reste un rendez-vous d'experts et d'éditorialistes. Ça aussi, hein, c'est une posture. L'expert et l'éditorialiste qui a été énormément battu en brèche l'année dernière par le grand public. Qui sont ces gens qui ne sortent jamais de leur bureau, qui ne sortent jamais de leur studio et qui, pendant une heure, deux heures et parfois beaucoup plus,
sur des plateaux exceptions, quand de chaîne info. Dans les débats, ouais. On a aussi des intervenants qui sont en fait ni experts ni éditorialistes, mais simplement des gens engagés. Quand on a Rokhaya Diallo, par exemple, c'est pas une experte ou une éditorialiste. Ou quand on a Laurence Taillade, c'est plutôt une militante qu'une experte ou éditorialiste. Mais enfin, globalement, vous avez raison. Mmh. Mais il en faut. Il faut de tout pour faire un monde médiatique et d'information. Il faut bien sûr entendre des experts, bien sûr entendre des éditorialistes. Et puis, il faut entendre la parole des gens. La parole des gens, surtout quand les réformes les concernent directement.
Alors, un mot sur le format du 18-20, parce que vous mettez énormément en avant la pédagogie.
Oui.
Énormément, énormément, ce qui n'est pas du tout le choix de vos concurrents. Et
tout
on l'a
fait.
Dit, manifestement, en termes d'audience, ça paye. C'est très intéressant parce que à quelle heure on fait de la pédagogie, on ne sait plus. On a l'impression qu'arrivée la fin de journée, je rappelle qu'LCI ça s'adresse à un public relativement jeune, plutôt de catégorie sociale supérieure et urbain, assez féru de politique, on a l'impression qu'à la fin de la journée, tout ça est digéré.
Oui, mais je pense que non. Je pense qu'on se trompe toujours en surestimant la capacité des gens à connaître tous les sujets de A à Z.
Vous ne traitez pas tous les sujets, vous
non,
en
on
choisissez.
Traite pas tous les
c'est
sujets,
très éditorialisé.
Voilà, c'est très éditorialisé. On est quand même beaucoup sur l'économie, la politique et un peu l'international. Mais si vous voulez, je reprends cette formule, c'est très bien de débattre des sujets d'actualité. C'est encore mieux quand on sait d'abord de quoi on parle exactement. La pédagogie, ça a toujours été une ligne directrice. Et je pense qu'effectivement, le succès de l'émission, c'est que on reprend le sujet à zéro. Et quand on parle de l'impôt sur la fortune immobilière, quand on parle de la crise dans le Golfe, ou quand on parle
même... C'est l'héritage du 20h de France 2, où vous aviez énormément aussi développé ces formats-là.
On ne se refait pas.
À l'antenne, mais aussi avec tout un tas d'infographies, avec tout un tas de formats.
Mais on avait fait le pari aux 20h de se saisir, notamment après la crise de 2008, la crise financière de 2008, de ces sujets éminemment complexe et dont on ne traitait pas d'habitude au journal parce qu'il n'y a pas d'image. Et on avait dit, on va s'en saisir et on va se donner les outils de la pédagogie. On va se donner une nouvelle forme d'écriture. Donc, l'expert devant son grand tableau avec, comme vous dites, les graphiques, les chiffres, les tableaux. Et on va expliquer. Et on est resté sur cette même idée pour 24
heures. Vous qui veniez d'une chaîne d'info à l'époque qui s'appelait LCI, vous avez fait vos débuts. Vous qui veniez du show, du Breaking News. LCI qui a 25 ans.
5, 4, 3, 2, 1, top LCI.
Bonsoir et bienvenue sur la chaîne Info.
Le président de la République française et Jacques Chirac.
La visite d'État de Vladimir Poutine.
Premier test pour la
mobilisation. C'est un clip anniversaire qui a été concocté.
Françoise Marie Morel, à l'époque, qui avait ouvert l'antenne d'LCI.
Qui a été concocté par la chaîne. Quand on regarde ce clip sur les 25 ans d'LCI, on est médusé. C'est pas difficile, c'est toute une génération qui est de l'information qui est passée par LCI. On y voit Rutel Krief, on y va Patricia Loison, Audrey Pulvar, Laurent Delahousse, Yves Calvi, notre confrère d'RTL, Gilles Boulot, Anne-Sophie Lapix qui vous a succédé sur France 2, Bernard de la Villardière d'M6. C'est toute une génération d'infos. C'était la pépinière.
C'était la pépinière, mais c'est assez logique puisque LCI était la première chaîne info.
Ouais.
Donc par définition, elle avait fait appel à tous les talents d'antenne qu'il y avait un peu partout. Mmh. Et ces personnes-là étaient quand même, je dirais pas les meilleures de leur génération, mais enfin, dans ces exercices-là, c'était des personnes de talent. Donc après, évidemment, elles ont exercé ce talent un peu partout.
Est-ce que vous pensez que dans quelques années, ce seront les visages BFM qui ont grandi sur BFM Télé qui tiendront l'information? Est-ce que l'incubateur s'est déplacé?
D'abord, vous voyez qu'LCI se rapproche de BFM tous les jours, donc c'est à nuancer. Et ensuite, le contexte n'est plus le même. Il y a 4 chaînes info. Vous vous rendez compte, il y a de l'info partout, plus les chaînes d'info internationales qu'on a en France aussi. Donc évidemment, ça n'est plus du tout la même chose. À l'époque, LCI, c'était la seule.
C'était le tremplin voilà. majeur. Merci beaucoup, David Pujadas. 18h, 20h sur LCI. Et la grande confrontation, ce sera mercredi prochain en prime time.
Produite par Particule Production.
Bah, c'est société votre maison Zinetti. De production. Alors, Ali Rebéi, orthographe.
Quelques astuces pour faire moins de fautes de grammaire, d'orthographe et de vocabulaire. Les enfants et les ados peuvent nous appeler au 01 45 24 7000. Racontez-nous si les fautes de français vous ont joué des tours dans votre vie.
Et moi, je peux appeler?
Oui, si vous voulez.